Eh bien, bonjour ou rebonjour si vous étiez là l'heure précédente. Vous êtes dans les minces livres. Christophe, pour vous accompagner jusqu'à 11h. Et à la technique, c'est Nicole. Alors, excusez-moi pour... voilà, parce que je suis un peu enrhumé, donc je le dis, parce que... voilà, mais il n'y aura pas de souci. Ça va bien se passer. Alors, le programme aujourd'hui, eh bien... Je reçois tout d'abord Magali Azema, qui est gérante du restaurant Le Mezzaluna à Arras, un restaurant végétalien. Et puis, je recevrai également Chloé Papineau pour, eh bien, qui a créé Carton Malin. Donc, c'est une entreprise qui, eh bien, fait des réalisations des objets déco en carton et des meubles en carton, voilà. Donc elle nous expliquera tout ça dans quelques instants. Et puis la chronique Le Chemin Vert de Camille Plard. Et aujourd'hui, Camille s'intéressera. Le thème de la chronique, c'est de l'individuel au collectif. Voilà. Eh bien, je reçois tout d'abord, elle ne pouvait pas être avec nous en studio, mais nous l'avons par téléphone, c'est Magali Azema. Bonjour Magali.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Le Mezzaluna, donc vous êtes gérante du Mezzaluna, donc c'est un restaurant végétalien, donc qui ne propose pas de viande, ni de poisson, ni d'œufs, hein, voilà. Et c'est le premier restaurant végétalien du Nord-Pas-de-Calais, c'est ça?
Oui, chronologiquement, c'est-à-dire qu'on a ouvert il y a 5 ans. Depuis, bien sûr, il y a eu d'autres restaurants, etc., petits cafés végétaliens sur la métropole lilloise, oui. Notamment dans le Valenciennois aussi, des traiteurs également, et puis peut-être des entreprises que je ne connais pas. Mais voilà, chronologiquement, on était le premier restaurant.
Oh, voilà, il y en a pas mal maintenant aussi, mais donc dans le Pas-de-Calais. Si je ne me trompe pas, c'est le seul, non?
Peut-être bien. Je me tiens pas trop au courant. Je suis un peu dans mon entreprise.
Dans votre ville.
Je ne sais pas trop exactement combien on est. Peut-être que c'est le seul. Je ne sais.
Oui, parce que je m'intéresse aussi, voilà, à cette thématique. Mais bon. Alors, quelles sont les caractéristiques du restaurant, outre le fait que c'est un restaurant végétalien? Il propose des spécialités méditerranéennes.
Oui, alors c'est en quelque sorte ce que je faisais avant. Donc pendant 8 ans, j'ai eu un petit restaurant italien, tout petit. Je suis devenue végétalienne, végane, il y a quelques années. Et donc il s'est posé la question de que faire en étant restauratrice déjà quand on devient végane. Ça n'arrive pas à tout le monde. Par un petit peu par fainéantise, j'ai décidé de transformer tout ça en restaurant végétalien, tout simplement parce que je n'avais pas envie de me reconvertir, de changer de métier. Donc du coup, c'est devenu un restaurant végétalien avec aucun produit animal et avec des fortes influences italiennes, avec beaucoup de pâtes, de légumes, de tomates, et donc auxquelles j'ai intégré d'autres influences méditerranéennes. Donc marocaine, libanaise, un peu égyptienne, grecque également et turque pour la majorité. Et donc ça a fait un peu le Mezzaluna et c'est des parfums, des saveurs, voilà, un petit peu ensoleillées. Et c'est un excellent socle pour une cuisine végétale parce qu'on a les céréales, on a les haricots secs, les légumineuses, les lentilles, l'huile d'olive, les herbes, les épices. Tous ces produits végétaux qui font qu'on peut faire une cuisine super et qui est déjà existante et authentique.
Oui. Alors je disais donc cuisine méditerranéenne, mais avec des incursions dans d'autres pays, puisque vous proposez notamment dans vos spécialités une assiette indonésienne.
Tout à fait, exactement. Tout à fait, tout à fait. Comme je disais, la cuisine méditerranéenne, c'est vraiment un prétexte pour avoir des plats authentiques végétaux. Par contre, si on a l'occasion de voyager ou de faire voyager dans l'assiette, bien sûr, on ne va pas s'en empêcher. On a fait un petit voyage en Indonésie avec l'assiette saté en indonésienne. On fait des nouilles sautées asiatiques de temps en temps en plat du jour. Ça nous est arrivé de faire des spécialités mexicaines, donc togolaises également, Afrique du Sud, scandinave parfois. Enfin voilà, on fait un petit peu le tour du monde dans l'assiette.
Oui. Alors le nom Mezzaluna, comment a-t-il été choisi ?
Alors parce que c'est joli, je voulais un nom à quatre syllabes avant tout, donc c'est Mezzaluna, ça fait bien quatre syllabes, avec beaucoup de A, et donc également ça c'est un instrument, c'est une ustensile de cuisine, en français on dit une berceuse, ça sert à couper les herbes fraîches, le persil, etc., c'est en forme de demi-lune, Mezzaluna ça veut dire demi-lune. Donc c'est un ustensile de cuisine, d'où le nom, parce qu'on utilise énormément d'herbes fraîches.
Oui. Et votre parcours, alors, comment vous vous êtes formé à la cuisine végétalienne?
Alors, grâce à Internet et grâce aux livres de cuisine que je pouvais trouver à droite à gauche, c'est très intéressant parce que on est un petit peu encore dans l'époque où on est un petit peu en train d'essuyer les plâtres, en train de défricher. Donc il n'y a pas de formation, surtout pour les jeunes, il n'y a pas de cursus scolaire pour ce genre de cuisine. Mm-hmm. Donc on doit un petit peu se débrouiller encore avec les moyens du bord. Bien sûr, les choses changent extrêmement vite.
Oui,
et pour l'instant, on doit se débrouiller. En tout cas, il y a 5 ans, c'était une situation différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de décortiquer un peu les principes de cuisine traditionnelle, authentique, méditerranéenne, pour avoir une base solide de cuisine, plutôt que de faire une cuisine végétale qui sortait de rien, qui était appuyée sur aucune tradition culinaire déjà existante. J'aurais préféré faire une cuisine traditionnelle française, mais la cuisine traditionnelle française est très difficile à végétaliser, à véganiser. C'est très difficile de faire une version végane d'une blanquette de veau, d'un bourguignon, d'un petit salé aux lentilles. C'est un petit peu compliqué, vous en conviendrez. Alors que faire du pain frais avec du houmous ou un plat en sauce avec des haricots secs et des légumes, bon, ben là, c'est beaucoup plus simple. Donc, mais c'est des recettes qui appartiennent plus au bassin méditerranéen qu'à la cuisine traditionnelle française.
Mmh. Oui, parce que vous revisitez des plats, mais vous avez aussi il y a aussi votre pâte, hein, vous inventez aussi des plats.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On se sert de ce qui a été pratiqué par les générations antérieures, tout ce qui a fait ses preuves en termes de goût, avec les légumineuses, les légumes, les céréales, les herbes, les épices, on se sert bien sûr de l'expérience des anciens, mais par contre, on ajoute notre savoir-faire, et ça, on peut le faire uniquement parce qu'on y est tous les jours dans la cuisine. C'est avec la pratique, et parfois, en ayant des petits accidents de cuisine, des petits incidents, qu'on arrive à découvrir des choses assez chouettes. C'est la même histoire que la tarte tatin. Vous connaissez l'histoire de la tarte tatin. Elle était renversée à l'envers et du coup, ça a caramélisé et c'est devenu un classique. Eh ben, nous, c'est pareil. C'est avec des accidents de cuisine comme ça qu'on arrive à trouver des superbes idées parfois.
Alors, parlez-nous un peu de vos spécialités. Qu'est-ce que vous avez actuellement? Donc, je suppose que, c'est adapté aux saisons, hein, vos plats. Donc,
Oui, oui, oui. Alors actuellement, ce qui a beaucoup de succès, c'est une assiette de boulettes croustillantes au sésame. Donc c'est des boulettes à base de légumes, de riz, de lentilles et d'herbes fraîches. Elles sont rissolées, elles sont roulées dans les graines de sésame et rissolées. Donc c'est super bon, avec des épices douces. Et elles sont la nouveauté. C'est qu'elles sont servies avec une grande salade avec plein de choses dedans, avec des pousses de mâche, des lentilles, du quinoa, du quinoa français, pardon, des petites courges ou patates douces rôties, du chou. Donc voilà, on essaye de rester sur des légumes de saison. Et donc cette grande salade, en fait, je suis assez enthousiaste. Pourquoi ? Parce que pendant 5 ans, on n'a pas vraiment eu de grande salade au restaurant. Parce que comme il y avait un peu un stigmate attaché au véganisme et à la cuisine végétalienne, qui s'imaginait que les véganes mangeaient que des salades, pendant très longtemps, il n'y en a pas eu sur le menu parce que c'était un peu cliché. On avait envie de faire découvrir aux gens d'autres choses, qu'on n'aimait pas que les salades, qu'on aimait les pommes de terre avant tout, les spécialités au four, enfin des choses un petit peu plus que tout le monde, où tout le monde pouvait se retrouver. Mais là, cette salade, elle a un succès. Tout le monde se régale avec. Et c'est moi la première surprise, parce que je pensais pas que les gens apprécieraient une salade. J'avais cette appréhension de mettre une salade sur le menu. Mmh. Au bout de 5 ans, j'ai réussi à passer le pas et je suis pas déçue. Voilà.
Et vous faites aussi pas mal de plats de pâtes. Hein.
Oui. Alors on essaie de moins en moins des pâtes, mais bon, comme c'est un peu l'héritage de mon ancien restaurant italien. Donc il y a quand même pratiquement tous les jours le plat du jour est à base de pâtes avec les légumes du jour, avec en fonction des arrivages, des cajots qu'on a par notre fournisseur et nos maraîchers, tout ça. C'est toujours cuisiné, rissolé individuellement pour chaque personne qui va manger notre plat du jour. Et on essaie de respecter les codes italiens de la tradition des pâtes. Mmh. Mais on essaie de s'orienter vers plus de diversité en termes de plats du jour parce que il y a de plus en plus de demandes pour des spécialités sans gluten. Et les pâtes, bon, ben, vous le savez, c'est bourré de gluten. Donc, on essaie de se diversifier un peu plus. Donc, en utilisant des céréales autres comme du riz, du quinoa, du millet, du maïs, etc.
Oui, donc, vous disiez, donc, il y a pas mal de gens qui ont encore des préjugés hein, sur la cuisine végane. Mais bon, même si c'est en constante progression, hein, mais... vous essayez de lutter un peu contre ça aussi. Hein.
On lutte pas vraiment, on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire que... et puis, quand vous prenez... Nous, on a par exemple un burger avec des frites. Eh ben, souvent, on conseille aux nouveaux, par exemple, quand on a des gens qui disent « Ouais, moi je suis un viandard, je vais pas me régaler dans votre restaurant, tout ça », on leur conseille tel plat ou tel plat... Et donc le burger notamment, et on a des frites excellentes avec. Et quand vous commandez un burger, les frites, eh ben je suis désolée, mais c'est un élément absolument essentiel de votre assiette. Le pain du burger aussi, les garnitures du burger, la sauce, le fromage. Bon, nous, c'est un fromage végétal, les petites crudités qui vont avec. Tout ça, c'est un package en fait. Mmh. Donc, au fond... C'est rare qu'on ait des gens, même quand ils viennent un peu avec des semelles de plomb, ils viennent un peu à reculons, et ben, au final, dans 95% des cas, ils sont pas déçus. Au contraire, ils sont agréablement surpris, d'autant plus qu'on fait du rab à volonté sur les plats pour les accompagnements, pour ceux qui souhaitent manger plus. On veut pas faire de gaspillage, mais la moindre des choses quand on va au restaurant, c'est de manger à sa faim. Donc, pour que tout le monde mange à sa faim, on essaie de, et sans pour autant qu'il y ait de gaspillage et de nourriture qui part à la poubelle, on fait du rabat volonté sur les accompagnements. Comme ça, même les grands messieurs costauds qui viennent, eh ben, au final, ils partent, ils sont rassasiés, et puis vraiment, dans l'immense majorité des cas, très contents de leur repas.
Oui, donc la cuisine végétalienne, c'est une cuisine voilà qui est très très variée, très très inventive. Alors il y a eu des travaux récemment dans votre restaurant. Et donc qu'est-ce que ces travaux-là vont apporter justement au restaurant? Est-ce que ça s'est agrandi? Est-ce qu'il y a des nouveautés?
Alors c'est essentiellement structurel. On a refait une petite déco. Mais c'était surtout pour sécuriser le rez-de-chaussée dont le carrelage était très très glissant. Donc là, on a un carrelage antidérapant du tonnerre qui fait que on ne risque plus de tomber quand on court à travers la salle pendant le service du midi qui est un petit peu dynamique la plupart du temps. Donc voilà, c'était essentiellement pour minimiser ces risques. Également, on commence à procéder à un aménagement de l'espace pour pouvoir mieux accueillir les clients qui viennent commander à emporter. Parce que la vente à emporter, c'est un créneau qu'on est en train de développer vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, du coup, il faut qu'on arrive à gérer le flux des personnes qui se déplacent dans le restaurant, qu'on évite qu'il y ait trop de courant d'air, qu'on puisse éviter que les gens se croisent, se bousculent pendant le service, etc. Et donc, faciliter la prise de commande, le service, pour que tout le monde puisse manger assez rapidement le midi. Les exigences sont de plus en plus nombreuses à ce propos. Les gens ont de moins en moins de temps pour manger le midi. Donc, on s'adapte à la demande actuelle, on s'adapte aux habitudes alimentaires des gens. Et c'est pour ça que ces travaux étaient nécessaires.
Ok, donc de la vente sur place et puis à emporter. Et les horaires, c'est quels sont vos horaires, vos jours d'ouverture?
Alors le restaurant Mezzaluna, il est ouvert pour le midi du lundi au samedi. Et pour ce qui est du soir, à partir du mardi jusqu'au samedi soir. Donc nous sommes fermés uniquement le dimanche toute la journée, ainsi que la soirée du lundi.
Et donc le restaurant est situé donc 10 rue Gambetta, donc c'est tout près de la gare SNCF.
Tout à fait, oui.
Pardon, donc on a parlé des plats, donc il y a tout ce qui accompagne les plats, par exemple le vin. Comment quels sont vos fournisseurs? Comment vous proposez des vins bio, hein, puisque tous vos produits, enfin la majeure partie de vos produits sont bio, hein, on n'a pas dit ça, je crois, mais
la majeure partie, pas tous, hein, mais une majorité,
autant que possible.
Pour les vins, c'est particulièrement délicat. C'est l'élément le plus difficile à trouver en vegan, croyez-le ou pas, parce que 95 peut-être plus. % des vins en France sont collés à la gélatine, en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a de la gélatine dans le vin, mais que la gélatine a été utilisée dans le processus de fabrication. Du coup, la plupart des vins en France ne sont pas véganes. C'est pour ça que nous nous tournons vers des vins issus de l'agriculture biologique, dont les raisins sont issus de l'agriculture biologique. Et donc, et même quand c'est bio, il faut s'assurer que ça a été collé, filtré, avec de la protéine de petit pois plutôt que de la gélatine. La protéine de pois est une alternative à l'utilisation de la gélatine pour la fabrication du vin.
D'accord. En ce qui concerne vos fournisseurs, donc c'est les fournisseurs de la région essentiellement.
Oui, tout à fait. On travaille avec des fournisseurs de la région. Donc, pour les légumes, on travaille avec des fournisseurs et des maraîchers bio de la région. Donc, tout ce qui est légumes, c'est vraiment notre principal poste d'achat en bio, ainsi que les boissons. L'immense majorité des boissons sont bio, ainsi que les légumes. Après, on n'a pas que du bio parce que on serait obligé d'augmenter nos tarifs. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de faire de notre mieux pour proposer une offre de qualité sans pour autant toucher les gens au porte-monnaie, parce que c'est quand même un budget d'aller au restaurant, et surtout si c'est le midi à la pause pendant le travail, c'est important que ça reste un budget abordable. Donc on essaie de faire preuve de bon sens par rapport au bio plutôt que de faire du jusqu'au boutisme.
Ok. Et puis vous proposez aussi du, on va pas dire du fromage, hein, mais du fromage, hein,
du fromage, on va dire, ça c'est plus
voilà.
Maintenant. Et vous puis, connaissez très bien l'établissement, hein, je vois.
Ah, je suis déjà venu chez vous, si je peux, dire quelque chose de personnel. Oui, je suis déjà venu deux ou trois fois chez vous, oui.
Mais, ah, c'est super.
Voilà.
Et le fromage, oui. Alors, ce fromage, c'est du fromage Vegusto qui est fabriqué, il est élaboré en Suisse. Il est assez difficile à trouver en magasin, donc c'est pour ça qu'on en stocke pour l'utilisation des clients qui souhaiteraient se dépanner un fromage à râper ou en sauce au fromage. Donc la sauce au fromage, c'est plutôt pour les gratins. Le fromage à râper, c'est plutôt pour les pâtes, pour mettre dans les pâtes. Il est d'extrêmement bonne qualité. C'est le meilleur fromage que je connaisse pour l'utilisation en cuisine. Et ça apporte vraiment un petit plus. Il est fait à base de pommes de terre, d'huile végétale, d'amandes et de levure de bière. Il est affiné en Suisse comme un vrai fromage suisse. Donc les Suisses connaissent leur business de fromage. Et du coup, ça donne un produit particulièrement de qualité, particulièrement qualitatif.
Très bien. Des projets, des événements pour le restaurant cette année
Le gros événement, c'était la fermeture pour les travaux.
Oui.
Mais bon, là, on essaye d'incorporer des nouvelles technologies au restaurant pour faciliter la fluidité du service. Donc, on aura peut-être une espèce d'interphone qui va nous relier à la cuisine. Et puis, vraiment la révolution pour nous, ça va être l'imprimante en cuisine qui imprime les commandes. Et que les serveurs ont prise à partir d'un pavé tactile, alors ça va être vraiment la révolution pour nous. Moi qui fais sans ça depuis 15 ans, ça va changer la vie, on va voir si c'est utile, on va voir ce que ça va nous apporter, en espérant que ça n'enlèvera pas de convivialité, et que, voilà, on va garder le côté sympathique au niveau du service, tout en s'adaptant aux exigences des gens pressés, qui n'ont qu'une demi-heure pour manger le midi.
Très bien. Donc, on peut retrouver le restaurant. Donc, il y a un site internet, c'est Mezzaluna Arras, je crois. Je sais pas.
C'est ça, mezzalunaarras.com,
ouais.
Où vous pouvez trouver le menu à emporter. Et si jamais vous souhaitez faire une commande à emporter, vous passez un coup de fil et vous commandez, on se met d'accord sur l'horaire. Et voilà.
Ok. Puis on peut vous retrouver également sur les réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram.
Un petit peu. Voilà. On essaie de poster des images, mais bon, hein, faut qu'on s'habitue. Hein.
D'accord. Voilà. Petit à petit. Voilà.
Petit à petit.
Donc c'est le Mezzaluna au 10 rue Gambetta à Arras, donc près de la gare SNCF. Donc il y a de quoi se garer, hein, je pense. Voilà.
Oui. Il y a toujours de la place.
Voilà. Bien, merci beaucoup, Magali.
Merci Christophe également de m'avoir reçu et une excellente journée à vous.
De rien, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Alors maintenant, nous allons retrouver Camille Plard pour sa chronique Le Chemin Vert. Bonjour Camille.
Bonjour Christophe.
Alors donc aujourd'hui, on va aller de l'individuel au collectif.
C'est ça, la thématique de la chronique aujourd'hui, c'est donc de passer de l'individuel au collectif. Puisque maintenant que vous avez commencé à réduire vos déchets au quotidien, vous avez certainement envie d'aller plus loin. Et vous vous demandez sûrement comment faire à votre petite échelle. Si vous avez creusé un peu, vous vous êtes rendu compte que la gestion des déchets n'était pas du ressort de votre mairie. Mais cette dernière ne peut-elle agir sur la réduction des déchets? Elle peut en fait mettre en place des actions pouvant faire la différence, et assez facilement. Pour information, cette chronique est basée sur les informations contenues dans l'ouvrage de l'association Zero Waste France, Territoire Zero Waste, qui propose entre autres 9 chantiers d'action pour réduire les déchets et le gaspillage à l'échelle d'une commune. Alors pourquoi une chronique, sur cette thématique? Parce que les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales en France. L'enjeu de ces élections est très important puisqu'il s'agit d'élire les personnes qui agiront à l'échelle de votre ville. Certains élus ou candidats pourront vous rétorquer que la gestion des déchets n'est pas de la compétence de la mairie, mais vous pourrez leur donner des exemples concrets d'actions à mettre en place facilement et qui pourront réduire significativement les déchets à l'échelle de leur commune. Je vous présente aujourd'hui 5 des 9 chantiers proposés dans l'ouvrage de Zero Waste France. Alors le premier chantier, la mairie peut s'attaquer au plastique et aux emballages jetables. La pollution plastique est une préoccupation d'échelle internationale et contribuer à l'enrayer est possible au niveau local. Pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique, les collectivités peuvent agir à plusieurs niveaux. Elles peuvent réduire l'usage du jetable au sein de leurs services en modifiant leur politique d'achat au profit de solutions réutilisables. Elles peuvent également prendre des arrêtés limitant le recours au jetable sur le domaine public, par exemple dans l'événementiel, la restauration ou encore le secteur touristique. Elles peuvent également soutenir les alternatives locales en facilitant l'accès à l'eau potable sur l'espace public et en soutenant le retour à la vente en vrac ou des dispositifs de consigne. Un exemple concret en France, la ville de Rennes a limité par arrêté l'utilisation de plastique jetable dans l'espace public lors de la fête de la musique. Le deuxième chantier, donc, c'est mettre en place une solution pour les biodéchets. Les déchets organiques constituent environ un tiers des ordures résiduelles enfouies ou incinérées. Les collectivités ont une responsabilité de premier ordre pour encourager les foyers au compostage domestique en distribuant par exemple des composteurs et en formant les habitants, pour essaimer les points de compostage collectif et accompagner les usagers au montage des projets, et dans les zones urbaines, mettre en place une collecte séparée des biodéchets qui permettra d'aller capter les gisements là où le compostage collectif est insuffisant. Le troisième chantier, c'est accompagner les initiatives dans le champ de la réutilisation, et du réemploi. Si elles ne sont pas nécessairement porteuses de projets de réemploi elles-mêmes, les collectivités peuvent faciliter l'émergence de lieux permettant le réemploi et la réutilisation des objets comme les ressourceries, ou encore faciliter l'accès aux gisements en incluant des zones de dons en déchetterie par exemple. À titre d'exemple, des grandes villes comme Lyon ou Besançon ont créé des zones de réemploi au sein de leur déchetterie afin de faciliter l'accès aux gisements par le secteur du réemploi. Vous pouvez y déposer les objets ou encore même l'électroménager qui fonctionne encore pour leur donner une seconde vie. Le quatrième chantier, c'est agir via la commande publique de fournitures, de services et de travaux. Les achats publics sont un levier dans les spécifications techniques des cahiers des charges et critères de notation pour réduire notoirement le recours au jetable. Par exemple, les barquettes jetables dans les cantines scolaires. L'anticipation des achats très en amont permet de mieux influer sur le cahier des charges. Par exemple, en exigeant des candidats des durées de garantie plus importantes, des approvisionnements durables ou le bannissement de certaines pratiques, comme les bouteilles d'eau. Ainsi, la ville de Strasbourg devrait, d'ici à 2022, éliminer les barquettes en plastique dans les cantines. Le cinquième chantier, c'est s'attaquer au gaspillage alimentaire. Au sein de leurs administrations, les collectivités peuvent réduire le gaspillage alimentaire par des actions de sensibilisation, ainsi que la mise en place du tri des déchets alimentaires dans les cantines, par exemple, qui permet de mieux identifier les défaillances. Le soutien aux acteurs engagés localement permet également une action de fonds, des investissements stratégiques pouvant faciliter la gestion d'invendus comme des camions frigorifiques. Je vous donne un dernier exemple. En France, la commune de Saint-André de Cubzac, en Gironde, a drastiquement réduit le gaspillage au sein de ses cantines, d'abord en organisant des pesées, puis en adaptant le nombre de repas en fonction des inscriptions préalables ou encore en appuyant sur la sensibilisation. Voilà, vous avez quelques pistes pour éplucher le programme de vos candidats ou pour aller toquer à leur porte et les titiller sur la question du zéro déchet et de la réduction du gaspillage. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter l'ouvrage Territoire Zero Waste ou consulter la synthèse des 9 chantiers en ligne sur le site internet de l'association www.zerowastefrance.org.
Eh bien, merci beaucoup Camille. Alors, toi, non, tu agrées l'ELICAM et donc tu proposes des ateliers textiles, c'est ça, les créations couture zéro déchet.
Oui, c'est ça.
Et quelle est l'actualité maintenant? Tu as, je crois, donc un rendez-vous mensuel aux ateliers Jouret à Roubaix.
Oui, tout à fait. J'ai mis en place un atelier, donc un rendez-vous mensuel, tous les premiers mardis du mois, donc de 18h30 à 20h30 aux ateliers Jouret à Roubaix. Et donc voilà, les personnes peuvent s'inscrire en ligne. Et c'est un atelier assez libre pour créer un accessoire zéro déchet. Donc que vous soyez débutant ou non, je vous accompagne pendant 2 heures sur la réalisation. Ça peut aller d'apprendre à utiliser la machine à coudre et de coudre par exemple des lingettes pour le visage, ou encore faire un sac à tarte, des sacs à vrac avec des tissus de récupération.
Très bien.
D'autres... Et donc les inscriptions se font en ligne.
Ouais.
Sur le site With Event, et toutes les informations sont sur ma page Facebook.
Voilà, on peut te retrouver sur ta page Facebook Lélicam et aussi sur Instagram.
C'est ça.
D'autres choses à nous signaler ?
Oui, j'ai un autre atelier. En fait, je vais faire un atelier. J'ai eu la bonne surprise d'être contactée par la manufacture de Roubaix. Donc, c'est le musée dédié à la mémoire et à la création textile. Et donc, j'ai la chance d'y animer un atelier le 25 février, donc pendant les vacances scolaires, de 15h à 17h. C'est un atelier en binôme parent-enfant. Et donc, c'est un atelier créatif zéro déchet. Et donc, on va créer un mobile avec des tissus de récupération. C'est de la couture à la main, pour le coup. Et voilà, c'est à partir de 6 ans. Et je pense que ça va être très sympa. Et les inscriptions seront en ligne bientôt sur le site de la manufacture directement.
Ok. Bon, mais très bien.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Camille.
Merci
et
à toi.
Et puis donc, au mois prochain.
Au mois prochain.
Le chemin
merci.
Vert. Eh bien, maintenant, nous allons retrouver... Chloé Papineau pour Carton Malin, bonjour, qui nous vient de Béthune.
Oui.
Et donc là aussi, hein, c'est l'utilisation de matériaux de récupération. Puisque tu proposes des meubles et objets déco en carton de récupération. Donc,
hein. C'est ça, tout à fait.
Et puis aussi bientôt... des ateliers d'initiation à la fabrication de meubles.
Oui, oui, oui. J'aimerais beaucoup.
Oui. Et tu cherches peut-être un local, quelque chose, hein, c'est ça ?
Oui, c'est la grande difficulté. En fait, Donc, je vais peut-être vous raconter un petit peu le parcours. Hein. Donc, je suis actuellement en couveuse d'entreprise au sein de la BGE à Béthune. Donc, je ne suis pas encore complètement autonome. On va dire que je suis accompagnée. Et donc, après la mise en place de tout le début d'une entreprise, le côté administratif, etc. J'ai commencé là récemment à chercher effectivement des salles, des associations au sein desquelles je pourrais proposer des ateliers d'initiation à la fabrication de meubles en carton.
Mmh. Et puis, les meubles et les objets de déco, mais aussi des réalisations sur mesure. Donc, s'il y a des gens qui veulent un objet particulier, tu peux aussi le...
Tout à fait. Tout à fait, on peut tout faire avec le carton.
Oui. Oui, parce qu'on imagine que c'est quelque chose de pas très solide, mais en fait, c'est très résistant.
Ah, en fait, ça porte nos colis. Hein. La plupart des gens se font livrer leurs colis dans des cartons, donc ça prouve quand même que c'est assez solide. Mais c'est vrai que dans l'esprit général, le carton reste un déchet, justement. C'est-à-dire, on se fait livrer un colis, l'important, c'est ce qu'il y a dans le carton. Et le carton, on le met à la benne. Ouais. Alors qu'en fait, on peut parfaitement le réutiliser et faire de très jolies choses avec.
Mmh. Quel était ton parcours jusqu'ici ? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour créer Carton Malin ?
Bon, alors moi, j'ai un parcours extrêmement atypique.
Oui.
En fait, j'ai une formation de physicienne. Donc j'ai fait toutes les études qu'il faut, hein. J'ai un doctorat en physique, j'ai réalisé quelques contrats postdoctoraux à l'étranger, donc j'étais vraiment partie pour une carrière de chercheuse. Et puis, un petit peu après la trentaine, j'étais à Madrid à l'époque, j'ai vraiment eu envie de rentrer en France, je savais que la perspective d'obtenir un poste au CNRS ou à l'université... ça allait me prendre encore quelques années. J'avais envie de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un. Bon, voilà. Donc, je suis rentrée et j'ai arrêté la recherche. J'ai été journaliste pendant quelques temps dans le domaine du jeu vidéo parce qu'il se trouve que j'aime beaucoup le jeu vidéo. Je jouais moi-même à pas mal de jeux. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, lorsque ma fille est née, quelques temps après, tout simplement, on n'avait pas beaucoup de moyens avec mon conjoint. Et j'avais pas les moyens de lui offrir un beau cadeau d'anniversaire pour son premier anniversaire. Mais je voulais quand même lui offrir quelque chose.
Et il se trouve qu'elle avait des jouets qui traînaient partout dans la maison. On les mettait dans des boîtes à chaussures parce qu'on n'avait rien. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire un coffre à jouets. Et puis, très rapidement, vu que moi, j'avais jamais rien fait de manuel, je me suis rendue à l'évidence que le meilleur matériau pour moi, qui n'avait aucun outillage en plus et pas beaucoup de place, c'était le carton. Et j'ai commencé à chercher sur Internet. Et alors là, un univers entier s'est ouvert sous mes yeux. Je n'avais jamais entendu parler du cartonisme, du meuble en carton. J'ai découvert des tutos, j'ai découvert des blogs de gens qui faisaient ça depuis des années. J'étais complètement éberluée. Alors, j'ai remonté mes manches et je m'y suis mise. J'ai dessiné un patron. Je me suis lancée là-dedans et ça m'a plus lâchée. Ça fait 5 ans quasiment maintenant et ça m'a plus jamais lâchée. C'est formidable.
Et tu as suivi des tutos sur Internet, tout ça, mais tu es entrée dans une école qui forme justement. Au meuble en carton.
Voilà, donc c'est resté une passion, un loisir créatif pendant on va dire les 3 premières années, jusqu'au moment où c'est devenu évident que ça prenait une part grandissante dans ma vie et que c'était tellement gratifiant pour moi, ça donnait vraiment une sorte de sens à ma vie, que un projet professionnel est né. Et donc j'ai cherché. Bon, en plus ça a coïncidé avec le moment où j'ai changé de région, donc je suis arrivée dans le Nord, enfin dans les Hauts-de-France, et donc là j'ai cherché effectivement un moyen de me former pour pouvoir me reconvertir là-dedans, tout simplement. Donc j'ai fait une formation d'un mois à l'école du carton à Paris, qui est près de la porte de la Villette, et qui a, vous pouvez aller voir, hein, c'est. Il y a une page, enfin je veux dire, les gens sont toujours surpris. Ça existe, une école du carton, oui, ça existe. Alors bien sûr, il n'y a pas de diplôme reconnu au niveau de l'État, donc c'est pas une formation diplômante, mais c'est quand même une formation qualifiante. Et donc l'enseignante Kitty est extraordinaire et nous apprend plein de techniques qu'on ne trouve pas sur Internet.
Ok. Et justement, le carton pour fabriquer meubles, objets de déco. On va dire, pourquoi le carton et quels sont ses avantages?
Oh, il n'y a quasiment que des avantages. Déjà, ça coûte rien. Donc, si vous voulez vous faire, comme moi à l'époque, en fait, et même encore maintenant d'ailleurs, si vous voulez faire des objets de déco ou des meubles à moindre coût, c'est génial. Il suffit d'aller faire le tour des magasins près de chez vous, des magasins de sport, des magasins d'automobile. Et vous récupérez des grands cartons de qualité. Mmh. Alors évidemment, faut pas qu'ils soient troués, faut pas qu'ils soient trop abîmés. Mais voilà. Donc je dirais déjà, pour commencer, le côté un peu zéro déchet. On retrouve l'idée de la chronique de Camille. Voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, le côté écolo. Sur l'aspect technique maintenant du matériau, le carton peut se courber. Contrairement au bois, mais on va dire que le bois, pour le courber, c'est un processus qui est quand même un petit peu plus compliqué, alors que à la main vous pouvez courber du carton et ça reste très 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 solide. Donc ça fait que on peut avoir des meubles ou des objets à forme très originale, mais qui restent quand même solides. Et ensuite il y a les techniques de construction en elles-mêmes qui font que bien évidemment, c'est pas juste des plaques de carton collées entre elles. Hein. Il y a une structure interne dans tous les meubles qui les rendent plus résistants, tout en les gardant souples. Donc, ils sont légèrement souples à la déformation, ce qui leur assure une grande solidité, en fait. C'est un peu comme les bâtiments antisismiques. Oui. C'est parce qu'ils peuvent bouger que, justement, ils sont résistants. Là, il y a un peu de cette idée-là.
Et un peu aussi les voitures, quand il y a des accidents, voitures se déforment. Et puis,
le fait que, alors bien sûr, vous, si vous avez un fauteuil en carton sous la main, il va pas se déformer comme ça sur simple pression. Mais enfin, la structure interne est quand même pensée pour que le meuble soit résistant vraiment dans la durée. Hein.
Alors par exemple, si on fait, je sais pas, une chaise en carton. Quelles sont les différentes étapes, en gros, comme ça, pour fabriquer un meuble comme ça?
Alors, les chaises et les fauteuils, enfin, on va dire, ouais, les chaises, les tabourets, etc., ou les tables, sont des techniques quand même assez avancées. Donc, on va commencer par les pieds, on va les rendre plus résistants, on va créer tout un tas de
Je commence pas peut-être avec le
contrefort
bon objet,
interne. Voilà,
on va dire facile à réaliser.
Une bibliothèque, une table de chevet, ça va être les techniques de base. Enfin, la technique de base qui s'appelle la méthode des traverses. Donc, on va créer les profils du meuble, c'est-à-dire la plaque du fond, une ou deux plaques intermédiaires selon la profondeur du meuble, et la plaque de devant, donc vraiment la façade du meuble. On va avec les trous aux endroits où on voudra mettre des tiroirs, par exemple, des niches. Donc on va commencer par dessiner et découper ça. Ensuite, on va encocher les profils intermédiaires pour pouvoir y glisser des traverses. Donc là, on aura une structure en trois dimensions, mais vraiment que sur deux axes principaux, on va dire. Et à partir de là, on va pouvoir tout en coller et habiller le meuble. Donc vraiment l'habiller de carton sur la partie supérieure, si on veut poser des objets, par exemple. Sur les côtés, s'il est courbé, si on a dessiné un meuble avec des courbures, on va courber le carton en fonction et après on va venir le coller. Une fois que le meuble est grosso modo fini en termes de carton, on ponce tout pour que ce soit bien lisse. On craft avec des rouleaux de craft gommé qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs typiquement. Et après on va pouvoir passer à la décoration.
On peut mettre en peinture ou alors coller du papier, c'est ça?
C'est ça. C'est essentiellement les deux techniques qui sont le plus souvent employées. Bon, certaines personnes préfèrent la finition craft, donc le meuble en carton est laissé brut, un peu comme un meuble en bois serait laissé brut. Mais oui, en général, soit on enduit, on ponce, on peint comme n'importe quel meuble, soit on appose du papier dessus. Alors la plupart des cartonistes aiment travailler avec du papier népalais qui est fabriqué dans l'Himalaya, selon des techniques ancestrales. C'est un papier écologique qui bénéficie des labels Fairtrade. Enfin voilà, il vient de loin, c'est vrai, mais ça reste un papier qui est très beau, qui est très noble et qui est commerce équitable. Donc même si c'est pas écolo de le faire venir sur des milliers de kilomètres, ça reste quand même une approche pas industrielle, on va dire.
Alors justement, en fait, toutes ces différentes étapes, tu en parles sur ton site cartonmalin.fr, où tu tiens un blog. Et donc le premier article, je crois, tu décris un peu les différentes étapes pour...
Alors oui, le blog, malheureusement, j'ai...
Et là, il y a un article sur le... tu parlais du papier népalais, je crois qu'il y a quelque chose dessus sur le site. Hein.
C'est ça. Alors pour l'instant, j'ai écrit qu'un seul article de blog parce que...
Les autres sont en attente.
C'est ça, mais les autres sont en fabrication. Ils sont prêts dans ma tête, mais... Il faut que je prenne le temps de m'asseoir.
Ils sont annoncés, mais...
C'est ça. C'est ça. Donc, le premier décrivait, en fait, tous les outils nécessaires pour la réalisation d'un meuble en carton chez soi. Et donc, il faut un cutter, etc., des grandes règles. Bon, je détaille tout ça sur le blog. Et donc, j'essayais surtout de chiffrer. Et à la fin, donc, on se rend compte que si on prend tout en compte, il faut environ 200 euros, ce qui n'est rien comparé à l'outillage nécessaire pour faire des meubles en bois.
200 euros pour quel meuble?
200 euros pour avoir les outils pour fabriquer un meuble en carton.
Ah oui,
sachant que
oui.
Le carton en lui-même coûte zéro,
ouais.
Ça fait 200 euros pour se faire son premier, son deuxième, etc., un meuble en carton. Donc c'est un investissement de départ.
Oui, les 200 euros vont servir pour d'autres meubles.
C'est ça. Le deuxième blog que je vais, j'espère, écrire dans les prochains jours, ça va être sur la durabilité du meuble en carton dans le temps. C'est-à-dire, on a pris un coup, comment on peut le réparer, quelles sont les erreurs à éviter pour justement faire en sorte qu'un meuble soit le plus durable possible. Voilà, je voulais parler
de ça. Et justement, par rapport au meuble en bois, est-ce que ça dure plus longtemps ou moins longtemps qu'un meuble en bois?
Alors, j'ai pas moi-même fait l'expérience d'avoir un meuble en carton depuis 50 ans. Il n'y a a priori aucune raison pour que le meuble en carton ne dure pas 50 ans. Il y a rien qui fait que le matériau va se désagréger par lui-même. Les meubles sont finis en étant vernis, comme n'importe quel autre meuble. Et donc, ils sont protégés de l'humidité, ils sont protégés des bestioles. Enfin, bon. Maintenant, le meuble en carton souffre plus que d'autres meubles. Hein. C'est évident que si vous laissez tomber une paire de ciseaux sur le meuble en carton, on va y avoir un trou. Hein. Alors qu'un meuble en bois, il y aura juste un petit accroc.
Ouais.
Voilà.
Ok. Donc, alors tes créations, donc on peut les voir sur ton site, donc c'est cartonmalin.fr. Et sinon, tes créations, meubles et objets et déco, on peut aussi, eh bien, il y en a aussi en ligne sur Etsy. On peut les acheter sur Etsy.
C'est ça. Alors, j'ai mis quelques créations sur la boutique Etsy, oui.
D'ailleurs, quand on va sur ton site, il y a un lien, je crois.
Oui, voilà. Il y a le lien vers Etsy, les réseaux, tout ce qu'il faut.
Voilà. Et puis, donc, tu es sur les réseaux sociaux, donc il y a Facebook et Instagram.
C'est ça, c'est Twitter ça aussi.
Twitter, voilà. Et puis, alors, ça, c'est le virtuel, mais on va pouvoir... on peut déjà découvrir ton travail au café, c'est un café, un salon de thé, le Sundry à Béthune.
Oui, le Sundry, c'est un café boutique en fait. Ouais. C'est tenu par un jeune homme qui s'appelle Quentin et qui adore la déco. Il fabrique lui-même des objets, bon, pas en carton, mais il customise des objets. Et donc, il met effectivement en vente dans son café les objets de déco qu'il crée ou que d'autres artisans de la région peuvent créer.
Mmh. Ouais, j'ai découvert grâce à toi. Donc
c'est super comme endroit, très chaleureux.
Il y a une bibliothèque, je crois aussi, une petite bibliothèque à l'intérieur.
Il y a vraiment plein de choses, plein d'objets à découvrir. Puis il y a vraiment une atmosphère particulière.
Ok, non, c'est à Béthune, boulevard Raymond Poincaré, je crois.
C'est juste à côté de la gare.
Oui. Voilà, alors qu'est-ce que tu proposes comme création, toi, essentiellement? Qu'est-ce que tu... il y a des meubles, il y a des... Décris-nous un peu tout ce que tu proposes pour l'instant en carton.
Alors, ça va de... Moi, je de manière générale, je pense que beaucoup de cartonistes, je préfère faire des meubles qui m'ont demandé quand même un certain travail. Donc, ça va être des fauteuils, des commodes, des meubles d'un certain volume. Tout ce qui est petites boîtes ou petits objets du quotidien. C'est sûr que c'est un peu plus facile à fabriquer, mais enfin bon, c'est toujours sympa quand même à faire. Hein. Sur mon site ou sur Etsy, ça va de lampes. Donc j'ai fabriqué quelques lampes. J'ai fabriqué des meubles utilitaires au quotidien, par exemple une étagère à épices ou un surmeuble pour poser la cafetière, ranger les dosettes dedans, ranger les tasses, par exemple. Des meubles pas non plus énormes, hein. J'ai pas fait d'énormes bibliothèques, je les ai pas mises en vente sur Etsy, tout simplement parce qu'il y a pas, enfin, je pourrais jamais les envoyer à leur acheteur, quoi. Il faudrait vraiment.
Oui, c'est volumineux.
Oui.
Et alors pour l'entretien des meubles en carton, ça se passe comment?
Comme tous les autres meubles, hein, un petit coup d'éponge, de lavette, un chiffon humide, voilà. Ils sont vitrifiés. Moi, j'ai mon meuble de salle de bain, je l'ai fait en carton. Non seulement il est dans une salle de bain, donc il est au contact de l'humidité en permanence, mais en plus il est suspendu. Donc il est vraiment accroché au mur. Les meubles en carton peuvent s'accrocher au mur en hauteur. Ils supportent un certain poids, il n'y a aucun problème.
Ok. Alors on peut te contacter éventuellement aussi pour des créations sur mesure, hein, je le disais tout à l'heure. Mm-hmm. Alors le mail c'est cartonmalin62@gmail.com et un numéro de téléphone aussi 06 72 53 09 06.
C'est ça.
Quel est l'objet qui t'a donné le plus de travail que tu as actuellement en vente?
Ah, actuellement en vente,
ouais.
Je dirais le meuble sous cafetière qui est rouge, que vous pouvez voir sur mon site. Il est rouge avec un autre papier blanc, un papillon rouge. Parce que en fait, il y a deux larges trouées dedans, et c'était un défi de garder le carton droit. J'ai dû forcer vraiment le matériau pendant quelques jours pour qu'il se mette droit.
Et bon, je sais pas trop combien de temps ça prend de créer un meuble en carton.
Bon, tout dépend du meuble, tout dépend de la technique,
bien sûr, ouais.
Pour ce meuble-là, typiquement, il m'a fallu 3-4 jours. Bien sûr, il y a du temps de séchage à prendre en compte. Hein. Mm-hmm. Le fauteuil de ma fille que je suis en train de terminer là, Ça fait ouais, une bonne semaine et demie que je suis dessus. Il y avait quand même des gros défis techniques. Ça peut prendre un peu de temps quand même. Hein.
Ok. Des événements, des projets à annoncer?
En fait, il n'y a rien de concret, de validé pour l'instant, donc je préfère pas en parler.
D'accord.
Je préfère pas trop m'avancer, mais enfin voilà, s'il y a des responsables d'associations qui nous entendent, des mairies, aux alentours de Béthune qui auraient une salle à disposition, ben vraiment ça m'intéresse. Si vous organisez des événements dans la région. Bientôt, que ça vous intéresserait d'avoir un cartoniste à disposition, ben je suis là, n'hésitez pas à me contacter.
Ben, l'appel est lancé.
Merci.
Et donc, on rappelle le site, c'est cartonmalin.fr. Sinon, il y a aussi le Facebook et Instagram. Voilà, ben, merci beaucoup.
Merci Christophe.
Chloé. Cette émission se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci donc à Chloé Papineau, à Camille Plard et aussi à Magali Azema. Cette émission est rediffusée ce soir à 21h. Elle sera disponible en podcast dans la journée sur le site de Radio Plus, radioplus.fr. Voilà, on se quitte en musique avec les Hirsellentes, les Frangines, avec un titre qui s'appelle Ensemble. À bientôt.
On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux. Soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses aux suivants. La chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble.